Philosophie de l'art par le père Philippe à Saint-Joseph le 6 février 85.
Nous allons continuer cette petite analyse sur l'inspiration. C'est de comprendre ce que c'est, philosophiquement parlant. Découvrir une source, c'est là la très grosse difficulté. Parce que on peut analyser quelque chose qu'on dépasse. Quelque chose qui nous dépasse, on ne peut pas l'analyser. Quand vous êtes sous le jet d'eau, vous n'analysez pas. Quand vous regardez en bas, vous pouvez analyser l'eau qui est par terre. Quand vous regardez Dieu dans une contemplation, vous n'analysez plus. Quand vous regardez la créature, les réalités que vous voyez, vous les dominez toujours un peu et vous pouvez les analyser. Mon intelligence est plus vaste que les réalités existantes. Les réalités existantes sont limitées, mon intelligence a quelque chose d'infini. Et c'est pour ça que je peux analyser toutes les réalités existantes, l'homme y compris, en tant qu'il existe. Mais l'intelligence dépasse. Et Dieu, il est celui que je ne peux pas analyser, absolument saint. Eh bien, l'inspiration, c'est quelque chose comme ça, vous voyez. C'est pas Dieu, c'est bien évident. Mais c'est quelque chose d'absolument simple, qui jaillit comme une source. Et c'est pour ça que, de fait, les philosophes sont toujours très embarrassés. Nous avons vu, il y a très peu de philosophes qui ont parlé de l'inspiration. Très peu. Et la philosophie traditionnelle de la scolastique n'a pas parlé de l'inspiration. Pas étonnant, parce que c'est la logique qui a pris le pas sur la métaphysique. Au point de vue logique, vous ne pouvez rien dire sur l'inspiration. C'est alogique. Complètement alogique. C'est irrationnel. C'est très intelligent. Et c'est au-delà de la logique. Vous ne pouvez pas définir ce que c'est que l'inspiration. Impossible. Ça dépasse. Vous voyez ? Et c'est pour ça que je vous disais, parce que je crois ça important au point de vue proprement histoire de la philosophie, ce qu'il y a de plus intéressant dans Kant, c'est ce qu'il nous dit sur l'art, sur l'imagination. Et au fond, sur l'imagination créatrice. Et c'est là où je crois que Kant a découvert ce qu'est la subjectivité transcendantale. La subjectivité transcendantale, nous la découvrons profondément qu'au niveau de l'inspiration. Si toute mon intelligence était une intelligence artistique, je serais kantien. Hein? Si toute mon intelligence était une intelligence artistique, je serais kantien. Parce que je découvrirais que c'est la seule manière d'en sortir. C'est de regarder la subjectivité transcendantale de l'intelligence. C'est-à-dire dire qu'il y a quelque chose dans l'intelligence qui ne peut se comprendre qu'à partir de l'intelligence. Tandis que nous disons que c'est l'être qui nous fait découvrir l'intelligence. C'est terrible de dire ça, hein, pour l'intelligence. Primo cadit in intellectus ens. Donc c'est l'être qui nous fait découvrir l'intelligence. C'est pour ça qu'on fait de la métaphysique. Hein. C'est pour découvrir l'intelligence, il ne faut pas l'oublier. Aristote disait qu'on faisait la métaphysique uniquement pour découvrir le « nous, c'est Dieu ». C'est pas pour découvrir ce que c'est que la nature, non, non, pas du tout, la phusis, pas du tout. C'est pas pour découvrir ce que représente le point de vue du vivant, non, non. C'est pour découvrir ce que c'est. On fait de la métaphysique pour découvrir le nous. En découvrant le nous, je découvre le vivant et je découvre la nature. C'est sûr. Mais par le sommet, l'être mesure l'intelligence. Est-ce que je peux dire la même chose pour l'inspiration ? C'est ça qui est intéressant de se poser la question si on veut essayer de comprendre un peu ce que c'est que l'inspiration. Alors, c'est très important pour nous parce que je vous ai dit, c'est l'analogué de ce que nous appelons nous l'inspiration divine. Je ne peux faire une théologie de l'inspiration que si je sais ce que c'est que l'inspiration. Autrement, je ne peux pas faire une théologie de l'inspiration. Je répète ce qui est dit dans l'Écriture. Je répète l'expérience du petit Samuel, puisque c'est le premier prophète. Alors, l'expérience de Samuel, c'est quand même énorme. Mais c'est descriptif. Je regarde les grands prophètes. C'est descriptif. Je regarde toute l'Écriture. Toute l'Écriture est un livre inspiré. C'est merveilleux, à travers toute l'Écriture, de découvrir ce que c'est que l'inspiration. Mais je ne fais que décrire. Je ne peux donner la théologie de l'inspiration qu'en ayant saisi, au plan philosophique, ce qu'est l'inspiration. Poétique, artistique. Puisque il n'y a pas d'inspiration au niveau philosophie spéculative. Alors, c'est ça qu'il faut essayer de saisir, hein, si on veut entrer dans l'inspiration profondément, au point de vue philosophique, c'est-à-dire saisir ce que c'est. Les deux extrêmes de la vie intellectuelle, de mon nous, c'est ça que je cherche. Qu'est-ce que c'est que mon intelligence ? C'est si difficile. Je ne dis pas la raison, je dis l'intelligence. Les deux extrêmes de ma vie intellectuelle. Philosophie première. Inspiration. Parce que c'est ma connaissance artistique. La connaissance artistique, c'est l'extrême comparativement à ma connaissance philosophie première. La philosophie première, c'est ce qu'elle dit. La philosophie première est une vraie philosophie première. Pas si elle est une logique. Parce que si elle est une logique, vous comprenez, je redégringole et l'inspiration devient bien plus importante. Pourquoi Maritain, qui commence, qui veut être quand même, qui veut être thomiste, hein, ça c'est sûr, les intentions de Maritain, on ne peut pas les, se mettre en doute. Pourquoi Maritain met-il l'inspiration au-delà de la métaphysique ? Très important de se poser la question. Maritain est un des grands philosophes de l'inspiration. Ça, c'est sûr. Qu'on soit pour ou contre, ça peu importe. Hein. Je le regarde comme un des grands philosophes de l'inspiration. Et Maritain met au-delà de la métaphysique l'inspiration. L'inspiration poétique. Pourquoi fait-il ça ? Parce que, de fait, dans la scolastique, décadent. Et Maritain reste encore dans cette perspective-là. Dans la philosophie, dans la scolastique décadente, la métaphysique est identifiée à la logique, fondamentalement. Alors c'est évident, au-delà de la logique, il y a l'inspiration. Je suis tout à fait d'accord. Si j'ai à choisir entre l'inspiration et la logique, je choisis l'inspiration et je ferai un suffrage universel, je verrai à gauche la logique en primauté et l'inspiration à droite, tous ceux de gauche viendraient à droite. J'en suis sûr, il y aurait peut-être un qui serait pour le prix de la logique parce qu'il n'a aucune inspiration. Alors à ce moment-là, il serait du côté de la logique. Mais autrement, tous seraient du prix de l'inspiration, j'en suis sûr. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est très net. Il y a 50 ans, peut-être qu'on aurait mis la logique avant. Mais dans le monde d'aujourd'hui, on est sensibilisé à ça, ça c'est évident. On a ce point de vue-là, j'en suis pas la peine de faire un suffrage universel, n'est-ce pas ? On aurait peut-être certains qui diraient « je comprends pas très bien le problème ». Alors, il se mettra au milieu. Il se mettra au milieu en disant, j'attends pour voir un peu le problème. La logique regarde l'être universel, l'inspiration. Mais la philosophie première, hein, qui regarde ce qui est en tant qu'être. Donc ce qui en tant qu'être détermine mon intelligence. Mon intelligence est relative à ce qui est. Quel est l'objet de mon inspiration ? Peut-être entre deux. Ça, c'est le nous, c'est l'intelligence. On va mettre dans le nous la raison. Alors, vous mettez là la logique. Mettez là très entre parenthèses, hein, la logique. Et la logique regarde l'être de raison. Regarde l'universel. Autre chose, c'est la raison, pas l'intelligence. La raison, c'est ma manière particulière d'être intelligent. La raison qui raisonne, le propre de la raison, c'est de raisonner. Et c'est pour ça que le propre de la raison, c'est de découvrir la logique. Et l'intelligence comme telle est au-delà de la logique, heureusement, pour l'intelligence. Dommage pour la logique. Mais heureusement pour l'intelligence, elle est au-delà. Parce qu'elle est au-delà de ce que représente la raison résonante. Donc cette distinction que fait saint Thomas entre intellectus et ratio, c'est une distinction fondamentale qui a été progressivement a disparu, avec évidemment Hobbes, et qu'on retrouve disparu complètement chez Descartes. C'est ce qui explique comment la métaphysique peut être amenée à la logique. Donc, vous voyez, ça, c'est une distinction fondamentale au point de vue critique. Il faut arriver à saisir ce que c'est. Tout raisonnement présuppose un jugement. Et le jugement, il est de l'ordre de l'intelligence. Tandis que le raisonnement, il est de l'ordre de la raison. Tout raisonnement présuppose un jugement. Et tout jugement présuppose une appréhension. Vous avez donc deux activités intellectuelles, l'appréhension et le jugement. Et tout raisonnement présuppose ça, présuppose appréhension et jugement. C'est pour ça qu'on dit ordinairement qu'il y a trois opérations d'intelligence. Vous voyez, deux appréhensions et jugement, qui sont proprement de l'ordre de l'intellectus, et la raison qui raisonne. Vous ne pouvez pas raisonner sans jugement et sans appréhension. Mais vous pouvez appréhender jugement et juger sans raisonnement. Ça existe. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir une philosophie première au-delà de la logique. La logique, c'est même pas le raisonnement. Hein. C'est même pas le raisonnement. C'est la réflexion sur ma manière de raisonner. C'est ma réflexion sur le conditionnement de mon raisonnement. Alors là, je vois que je ne peux raisonner qu'à cause de l'universel. C'est grâce à l'universel que je raisonne. Et donc ça, c'est la logique qui saisit ça. Ce qui m'intéresse ici, vous voyez, c'est de regarder ces deux extrêmes de ma connaissance intellectuelle. La métaphysique, l'inspiration. Les deux extrêmes. Alors, nous allons essayer d'entrer dans la métaphysique. Vous savez ce que c'est, vous voyez bien c'est, je ne dis pas que le propre de l'intelligence c'est de saisir la qualité. Pas ça, c'est saisir l'être. Et la qualité est saisie relativement à l'être. Ce qu'il y a de juste chez Plotin, c'est que la qualité saisit comme un dégradé de l'être. Ça, c'est juste. C'est un dégradé de l'être. Alors, pour lui, ça n'a pas grand intérêt. C'est un dégradé de l'être. Je ne le saisis que dans la descente. Et la qualité fait le lien entre le corps sensible et l'être. Et le tout, c'est qui fait le lien. Je suis relié, le corps sensible est relié à l'être par la qualité. Ça fait ce jeu de relation. Bon, la philosophie première regarde ce qui est en tant qu'être. L'inspiration regarde quoi? Ce n'est pas l'intelligence qui se regarde. Non. Parce que l'intelligence qui se regarde quand elle est au point de départ, elle est tabula rasa. Et regarder une table rase, ce n'est pas très drôle. Alors, l'intelligence, ce n'est pas l'intelligence qui se regarde. Et pourtant, c'est l'intelligence qui devient source. Dans l'inspiration, l'intelligence est source. Ça, c'est sûr. C'est comme ça que je vais poser le problème de l'inspiration. Je pose le problème de l'inspiration, comprenez-vous bien, à partir de l'œuvre. Je dis qu'il y a des œuvres inspirées et des œuvres non inspirées. Ça c'est sûr, hein, on est tous à reconnaître qu'il y a des œuvres inspirées, des œuvres qui ne sont pas inspirées. Il y a des œuvres qui montrent beaucoup de métiers qui ne sont pas très inspirés. Et puis il y a des œuvres qui quelquefois montrent moins de métiers et beaucoup d'inspiration. C'est curieux, on fait ce discernement. Alors l'œuvre, c'est le fruit d'une inspiration. L'œuvre implique une source. Et cette source cachée, c'est l'inspiration. Donc, il faut tout le temps, à partir de l'œuvre, remonter à l'inspiration. Ça, c'est sûr. C'est le mouvement inductif. Je remonte de l'œuvre à l'inspiration. Et je découvre que l'inspiration est au point de départ de toutes les grandes œuvres. Qu'il s'agisse de la musique, qu'il s'agisse de l'art pictural, de la peinture, qu'il s'agisse de la littérature, toujours. Toute œuvre d'art. La philosophie n'est pas une œuvre d'art. La philosophie première n'est pas une œuvre d'art. Elle est une contemplation. Elle contemple, et là, elle doit arriver à contempler ce qui est. Ce qui souverainement est, ce qui est premier, ce que nous appelons Dieu. Dieu n'est pas une œuvre d'art. Dieu est une réalité qui existe avant mon intelligence. Puisque ce Dieu que je découvre, il est créateur de mon intelligence. Il est créateur de mon esprit. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est lui qui m'a fait. Et donc, toute la philosophie consiste à découvrir l'être premier, Dieu, à découvrir le créateur, et à le contempler, et à l'adorer. Toute la philosophie est ordonnée à ça. L'inspiration est ordonnée à réaliser une œuvre. Et donc là, deux aspects très importants de la vie de l'intelligence. Deux extrêmes de ma vie d'intelligence. Un aspect de mon intelligence qui est source. Source qui va permettre une réalisation. Et un aspect de mon intelligence qui va permettre une contemplation. Il ne faut pas opposer les deux. Mettre une opposition, il faut voir que c'est deux activités totalement différentes. Et que le même individu intelligent peut contempler, peut réaliser. Mais il sait très bien que c'est tout à fait différent, contempler et réaliser. La réalisation d'une œuvre est autre chose que la contemplation de Dieu. La contemplation de Dieu, c'est justement essayer, après toutes les analyses, dépasser tout cela pour découvrir une source. Dieu est bien découvert comme une source. Il est le créateur.
une source de ce qui est. Tandis que je découvre en moi une source, c'est en sens ça qu'il y a une analogie entre les deux. La source est toujours ce qui est premier. C'est ce qui est premier, au-delà de quoi je ne peux pas aller. Et je découvre en moi une source, au-delà de quoi je ne peux pas aller, cette inspiration, qui est source d'une œuvre. Et par là, je suis créateur, grâce à cette réalisation. Créateur en petit, n'est-ce pas ? Mais je suis créateur parce qu'il y a une source, je ne peux pas aller au-delà. Donc je suis premier. Là, il y a deux sources totalement différentes. Ça, je peux tout de suite le préciser. Et ça nous aidera à comprendre le caractère propre de cette source. Il y a un caractère tout de suite, la différence, c'est que Dieu est source de ce qui est. Alors que l'inspiration est source d'une œuvre d'art. Alors quand on dit œuvre d'art, source de quoi ? Pas de la matière. L'œuvre d'art implique une réalisation, un travail qui implique une coopération avec une matière. Il y a toujours une matière qui est donnée en premier. Et l'œuvre d'art va consister à donner une forme nouvelle, une relation. Est-ce que l'œuvre d'art crée de nouvelles qualités ? Et là, nous allons rejoindre Plotin. Parce que Plotin, c'est une philosophie artistique. Très curieux de ça. Est-ce que l'œuvre d'art implique de nouvelles qualités ou implique de nouvelles relations ? Ça, c'est une question extrêmement importante. Est-ce que l'œuvre d'art que l'homme fait implique-t-elle de nouvelles qualités ? Est-ce que l'artiste crée des qualités ? Ou est-ce qu'il crée de nouvelles relations, de nouvelles harmonies, à partir d'une matière très riche qu'il peut employer ? Eh bien, je crois que l'œuvre d'art, si on l'étudie philosophiquement, implique de nouvelles relations. Ça apparaît comme de nouvelles qualités, mais en réalité, ce n'est pas une nouvelle qualité. C'est une mise en lumière de certaines qualités grâce à la relation. Vous voyez la définition de la qualité chez Plotin ? C'est exactement ça. C'est très, très curieux. C'est une définition artistique de la qualité. Et Plotin en fait une définition philosophique. Quand on arrive à saisir ça, on voit tout de suite qu'on a affaire à un philosophe qui garde un mode artistique et qui ne dépasse pas le mode artistique. C'est la même chose qu'on pourrait dire chez Bergson, vous voyez, parce que Bergson et Plotin sont deux larrons en foire. Hein, et ils s'aiment beaucoup. Vous savez bien, ce que Bergson aimait le mieux, c'était de commenter Plotin. C'était ce qu'il aimait le mieux. Ça, c'est Bergson et Plotin se tiennent, ils se reconnaissaient, ils s'aimaient. Et au fond, on retrouve la même chose. On retrouve une philosophie type artistique. Qu'est-ce qui est au point de départ de toute la philosophie de Bergson ? L'inspiration. Qu'est-ce qui est au point de départ de toute la philosophie de Plotin ? L'inspiration. Et c'est pour ça que, de fait, quand ils définissent la qualité, et c'est normal, on voit très bien que la qualité pour lui, ce n'est pas la substance. C'est la matière, la substance. Hein. C'est l'autonomie de la chose. C'est la relation. La qualité est relation. Et il sent très bien que la relation est autre chose que la qualité. Alors, c'est une qualité relative. On pourrait dire ça. C'est pas la relation que crée l'artiste. Il crée une nouvelle qualité grâce à de nouveaux jeux de relations. Il crée une nouvelle qualité au point de vue de la manifestation. La qualité se manifeste à nous autrement, ou plus exactement, il y a pour la connaissance humaine, grâce à une œuvre d'art, un nouvel objet. Ah ça, oui. L'artiste crée de nouveaux objets pour la connaissance. De nouveaux objets qui enrichissent la connaissance humaine. Et ces nouveaux objets sont connus, sont justement de nouvelles manifestations de la qualité, grâce à une harmonie, grâce à des qualités différentes. Et c'est pour ça que si je ne suis pas très attentif à distinguer l'ordre de l'intentionnalité et l'ordre ontologique, je dirais l'artiste crée de nouvelles qualités. En réalité, il crée une nouvelle manifestation de la qualité, qui me donne donc un aspect nouveau au point de vue de l'intentionnalité. Il y a une nouvelle intentionnalité, si vous voulez. L'art me donne une nouvelle intentionnalité, puisqu'une manifestation d'une qualité nouvelle, mais ne me donne pas au sens strict de nouvelles qualités. L'homme est incapable de faire de nouvelles qualités. Mais il manifeste des qualités. Il manifeste, dans l'ordre de la manifestation, il y a quelque chose de nouveau. Grâce à l'harmonie différente des qualités, grâce à la manière de les montrer, alors il y a une manifestation nouvelle. Et donc il y a quelque chose qui apparaît comme tout à fait nouveau, comme absolument inédit. En réalité, c'est de l'ordre de la manifestation des qualités. Alors comme la qualité est faite pour manifester, on comprend très bien que très facilement on identifie manifestation qui est de l'ordre de l'intentionnalité avec le point de vue ontologique de la réalité. Donc, si nous sommes attentifs, nous voyons que l'œuvre d'art implique de nouvelles manifestations des qualités grâce à une harmonie, une relation différente. Par le fait même, il faut donc que l'inspiration soit source de ces nouvelles manifestations. Dieu crée de nouveaux êtres, Dieu crée des réalités existantes nouvelles, l'artiste, s'il est inspiré, alors il faudrait se demander quand il n'est pas inspiré, qu'est-ce qu'il crée? Il crée de la logique, mais quand il n'est pas inspiré, c'est là toute la différence. Quand on n'est pas inspiré, vous pouvez créer de nouvelles relations. Si vous êtes inspiré, c'est de nouvelles manifestations. C'est très différent. Alors, on peut dire que l'inspiration peut être source de nouvelles manifestations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Source de nouvelles manifestations grâce à l'œuvre d'art. Je vous ai dit il y a un instant, l'ordre de la manifestation, c'est de l'ordre de l'intelligibilité. C'est de l'ordre de l'intentionnalité. C'est de l'ordre de l'intentionnalité. C'est la splendeur dans l'ordre de la manifestation. C'est la splendeur dans l'ordre de l'intelligibilité. C'est donc de l'intentionnalité. L'intentionnalité, philosophiquement parlant, est au niveau du possible. C'est en ce sens-là que je peux préciser que l'inspiration regarde Alors, c'est très important ça, parce que ça me fait comprendre comment l'inspiration peut très bien se donner à elle-même sa propre détermination. Et c'est ce qui caractérise l'inspiration. Et c'est pour ça que l'inspiration est vraiment une source. Je ne peux pas aller au-delà. Je ne peux pas aller au-delà. L'inspiration est première, elle est source. Elle est source de quelque chose de tout à fait sui generis, qui est justement cette intentionnalité qualitative. Qualitative, c'est une manifestation des qualités. Et donc, elle est source de possibles qui sont au niveau qualitatif. Pas de possible substantiel. Enfin, je précise au plan philosophique, forcément. L'artiste ne dira jamais ça. C'est pas lui à le dire. C'est le philosophe qui doit étudier l'inspiration. L'artiste, il est inspiré, on lui demande qu'une seule chose, c'est de faire des œuvres inspirées. C'est la seule chose qu'on lui demande. On ne lui demande surtout pas d'expliquer. On lui demande de réaliser. C'est un réalisateur. De temps en temps, il peut, hein, parce qu'il est un homme. Et alors, s'il est un homme, il est un philosophe. Et donc, il peut essayer d'expliquer. Mais il expliquera souvent, à sa manière très intéressante. S'il est un grand artiste, il expliquera d'une manière très intéressante. C'est toujours très intéressant ce que dit un artiste. C'est toujours très intéressant quand il parle de son œuvre. C'est toujours très intéressant. Mais faisons grande attention. L'artiste a son langage d'artiste et pas son langage de philosophe. C'est forcé. Il s'explique. Prenez Valéry, c'est pas un langage philosophique. Heureusement pour Valéry, n'est-ce pas? Parce que c'est pas un langage philosophique, c'est un langage de celui qui essaie d'expliquer ce qu'il vit. Van Gogh, dans ses lettres, c'est la même chose. C'est extrêmement intéressant pour saisir ce qu'est l'inspiration, parce qu'on la saisit à chaud, tandis que le philosophe, c'est pas froid. Non, c'est la différence. Forcément, le philosophe essaie de saisir lui, et pour pouvoir saisir ce que c'est que l'inspiration, il doit prendre de la distance. En tant que philosophe, il ne peut pas faire autrement. Il le sait. Et il sait qu'il explique une source cachée. Et qu'il ne pourra jamais totalement saisir cette source cachée. Parce que ça reste une source. Donc, au point de départ, il y a toujours quelque chose qui reste caché. Mais il peut quand même essayer de déterminer ce qu'est cette source. Et surtout de la déterminer en fonction de toute la vie de l'intelligence et de tous les domaines de l'intelligence. Il est en face donc d'un jet, d'une source, d'un jaillissement nouveau qui ne se ramène absolument à aucune autre détermination de l'intelligence. C'est quelque chose d'unique qui, dans la mesure même où cette source est vraie, dans la mesure même où cette source va alimenter toute une réalisation artistique, toute une création artistique, on aboutira à l'œuvre. Et dans l'œuvre, l'inspiration est incarnée. C'est le propre de l'œuvre. C'est d'incarner cette inspiration. Vous comprenez bien, je ne peux pas séparer l'inspiration de l'œuvre. Elle est présente dans l'œuvre. Elle est là présente dans la mesure même où l'œuvre est une œuvre artistique. L'inspiration est présente et elle est incarnée et elle se manifeste. Et c'est pour ça que l'œuvre révèle ce qu'est l'inspiration. Elle révèle ce qu'est la source. Quand vous serez dans... Alors, on la saisit plus ou moins parce que c'est justement une idée comme naturelle. Des œuvres artistiques. On ne peut jamais dire d'une façon absolue cette œuvre n'est absolument pas inspirée. On peut dire je ne saisis pas l'inspiration de cette œuvre. Je ne saisis pas l'inspiration de cette œuvre. Je regrette, mais je n'ai pas la sensibilité de saisir. C'est très possible, soit inspirée. Mais je ne la saisis pas. Tandis que dans d'autres œuvres, je saisis cette inspiration. Vous ne pouvez jamais dire d'une façon absolue. Et c'est le propre justement de l'inspiration artistique. Vous ne pouvez jamais dire de façon absolue, cette œuvre, bon, évidemment, il y a des extrêmes. Mais même dans des choses très extrêmes, dire il n'y a aucune inspiration, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est comme quand vous dites dans n'importe quel film, dire qu'il n'y a aucune vérité dans un philosophe. Vous ne pouvez pas le dire. Il y a des paillettes de vérité. Mais c'est très enfoui dans le marxisme. C'est très enfoui. Mais il y a quelque chose de juste. Une petite étincelle de vrai. Eh bien, dans toute œuvre artistique, okay, une petite étincelle, quelque chose qu'il faut saisir. Alors, vous pouvez très bien dire, ça ne m'arrange pas du tout à moi. Je n'ai pas du tout cette sensibilité-là. Ça me repousse plus. Donc, je ne saisis pas. Donc, vous ne saisirez pas l'inspiration à partir de cette œuvre-là, si vous êtes philosophe. Vous essaierez de saisir l'inspiration à partir des œuvres que vous goûtez, que vous aimez. et que vous considérez comme inspirée. Alors à ce moment-là, vous pouvez, en tant que philosophe, réfléchir sur ces œuvres-là. Le philosophe a le droit de choisir ses expériences s'il cherche à comprendre ce qu'est l'inspiration. Il n'a pas besoin de saisir toutes les œuvres d'art, autrement il ne pourrait jamais rien dire. Parce que le dernier qui est fait, il en saisit celle qu'il aime. Et à partir de là, il essaie de comprendre ce qu'est cette source cachée. Et il essaie de comprendre le caractère propre de cette source cachée. En disant, cette source cachée a ceci de tout à fait caractéristique comparativement à toutes les autres activités de l'intelligence, cette source cachée a ceci de tout à fait particulier, c'est que l'inspiration, c'est une connaissance qui se donne à elle-même sa propre détermination. Subjectivité transcendantale. Mais d'une façon tout à fait différente de Kant, mais c'est une subjectivité transcendantale. Parce que le propre, justement, d'inspiration, c'est de se donner à soi-même sa propre détermination. Si vous prenez chez un autre, c'est plus inspiré. Vous prenez chez un autre, vous faites un larcin. Vous ne dites pas, j'ai inspiré, mais en réalité, vous avez louché. Vous n'étiez pas inspiré du tout, vous avez louché, vous avez pris chez le voisin. Alors à ce moment-là, on sait très bien ce que ça fait. Ça se retrouve dans l'œuvre. Toujours, hein, on voit quelque chose qui n'est pas dans l'unité. Oui, c'est pour ça que le critère de l'œuvre d'art, c'est toujours l'unité. C'est l'unité. Les pièces rapportées, on sait bien ce que c'est, les pièces rapportées. C'est quelque chose, on a louché là-dessus. On ne l'a pas entièrement assimilé. C'est là la différence des petits artistes et des grands. Les petits artistes, comme ils n'ont pas beaucoup d'inspiration, ils louchent tout le temps. Les grands artistes, parce qu'ils sont... Ils ont une espèce de capacité extraordinaire d'assimilation. Alors, ils aiment de voir des choses multiples et diverses, mais c'est entièrement assimilé et c'est repris dans l'unité de l'inspiration. L'inspiration est source. Je crois que ça, c'est très très important. Source de connaissance. Et de connaissance inédite. Et de connaissance artistique, poétique. Pas de connaissances philosophiques. Non. Il n'y a pas d'inspiration au niveau de la métaphysique. Impossible. Il faudrait que vous créiez Dieu. Pauvre petit, hein, créer Dieu, c'est impossible. C'est une philosophie qui se dit métaphysique, inspirée, elle doit créer Dieu. Je ne peux pas. Dieu est avant moi. Et Dieu, je le découvre comme une source. Et je me découvre comme relatif à cette source. Tandis qu'au contraire, au niveau poétique, je suis source et je crée une œuvre. Et c'est l'œuvre que je crée. C'est pour ça que Dante disait que l'œuvre d'art est petite fille de Dieu. On voit très bien. Et c'est merveilleux de dire ça. Petite fille de Dieu. Parce que de fait, elle provient de l'artiste source et lui-même l'artiste comme homme est créé par Dieu. Et que l'intelligence elle-même est créée par Dieu. Donc, petite fille de Dieu. Ça a passé de cette manière-là. On voit bien comment, de fait, il y a une source première au niveau de l'être et une source au niveau de la manifestation qualitative.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous.